Bonjour à tous et à toutes, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte composé comme une fois par mois désormais, avec nos chroniqueurs, désormais attitrés. Ces chroniqueurs qui ne sont pas encore de vieilles branches, disons, croyez-moi, mais qui ont envie de nous parler ce mois-ci d'arbres et de forêts. Rendez-vous compte. Dans ce rendez-vous compte spécial chronique cœur, en deux mots, consacré ce mois-ci à la forêt et aux arbres en particulier, nous retrouvons celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire des inepties, Hélène Souault, psychothérapeute et psychanalyste, qui nous présente sa chronique « L'œil du psy ». L'arbre et la psyché, c'est un sujet qui t'a inspiré, Hélène, je crois.
Oui, l'arbre est un motif central dans le conscient et aussi dans l'inconscient. L'arbre est un élément bien réel, un végétal, indispensable dans le paysage. Un enfant qui commence à dessiner, qui représente un bonhomme, une maison, un soleil et un arbre. L'arbre est aussi un symbole. On l'utilise comme métaphore pour l'arbre qui représente la famille, l'arbre généalogique avec ses racines, les ancêtres, le tronc, la personne ou le couple au centre de l'attention, et les branches, les enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants. C'est un outil très utile quand on est écrivain biographe, par exemple, pour faire une biographie familiale.
Dont tu es un peu la spécialiste d'ailleurs. Alors l'arbre famille, tu l'as dit, mais l'arbre monde aussi.
Oui, alors l'arbre monde, c'est le titre d'un roman de Richard Powers qui a gagné le prix Pulitzer en 2019. Le livre commence par 8 récits ayant tous un lien avec l'écologie, comme 8 nouvelles distinctes ou 8 racines. Ensuite, tous les fils narratifs s'entrecroisent comme le tronc d'un arbre. La plus saillante de ces histoires est la lutte d'un couple de militants écologistes installés pendant des mois sur un séquoia géant dans une nacelle à 70 mètres de hauteur pour empêcher que l'arbre ne soit coupé. L'industrie du bois finit par l'emporter contre les idéalistes. L'immense séquoia est abattu. Le roman est poétique, voire mystique. Ce plaidoyer du XXIe siècle pour l'univers végétal est aussi magistral que Moby Dick, la fable du XIXe siècle sur les mystères du monde marin. Le mot symbole signifie littéralement « coupé en deux », dont les deux parties, réunies à la suite d'une quête, permettent au détenteur de se reconnaître. Ces deux parties pouvant être concrètes et abstraites, le cœur par exemple est le symbole de l'amour. Ces deux parties peuvent être terrestres et célestes, et l'arbre est alors le trait d'union entre ces deux entités. Dans son poème intitulé « Correspondance », Baudelaire écrit « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers une forêt de symboles qu'il observe avec des regards familiers. L'arbre dans ce poème est le trait d'union entre le ciel et la terre. Les piliers des églises, les piliers dont parle Baudelaire, avec leur nervure, sont directement inspirés des arbres. L'église est un résumé du monde et c'est l'arbre pilier qui le fait tenir. L'arbre est l'axe du monde.
Alors, l'arbre est l'axe du monde, mais aussi l'axe de la tentation et du péché originel, puisque Adam et Ève ont goûté aux fruits défendus. Alors, je le répète une fois de plus, ce n'est pas la pomme, ça n'a aucun sens. La pomme, c'est une histoire d'erreur de traduction millénaire, hein, puisque le fruit défendu, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui fait que, bon, croyons pas, ça veut dire que l'être humain sait ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Nous voilà donc en pleine métaphysique. Les arbres nous ont emmenés bien loin. Mais Hélène, tu es thérapeute. Tu as donc plusieurs cordes à ton arbre, si je peux me permettre. L'arbre peut-il avoir une quelconque vertu pour guérir ?
Oui. Alors, dans ce qui concerne ma pratique en psychothérapie, les arbres n'interviennent pas directement dans mon cabinet. Mais j'aime la chaleur du bois, dans le plancher, dans les meubles. Le patient peut apercevoir des arbres par la fenêtre dans le jardin à travers les voilages. En yoga, parmi les différents équilibres possibles, la posture de l'arbre est à mes yeux accessible et ressourçante. On commence par planter ses pieds dans le sol pour se sentir puiser l'énergie de la terre. On se dresse bien droit, comme un trait d'union vers le ciel. Et quand on est prêt, on lève une jambe qu'on garde proche de l'autre et on déploie ses branches, les bras, les mains ouvertes pour diffuser l'énergie puisée en bas. Quand on arrive à se sentir arbre et à tenir l'équilibre, c'est vraiment grisant.
Voilà, quand on se sent arbre ou même quand on ressent l'arbre directement dans son corps.
Oui, il existe une thérapie par le contact avec les arbres que je ne pratique pas personnellement, la sylvothérapie. La vue des paysages apaise. Les phytoncides et les terpèdes contenus dans les feuillages ont un effet positif sur la santé, ça a été prouvé par la science. Les ions négatifs combattraient les radicaux libres responsables du vieillissement et de certains cancers. Les bruits de la nature provoquent une stimulation positive sur le système nerveux. Simone Klun, une chercheuse allemande, a découvert que chez les adultes en bonne santé, l'activité de l'amygdale diminue après une heure de promenade en forêt, les pensées de rumination baissent, ainsi que la peur et le stress. Sans être personnellement adepte de la sylvothérapie, je n'ai de cesse de conseiller aux personnes que j'accompagne d'avoir une activité physique régulière, si possible dans la nature, avant de faire la sieste auprès de leur arbre.
Voilà, bien sûr, une bonne sieste, ça fait toujours du bien. Alors merci Hélène. Hélène Souhaud, notre psy attitrée que vous pouvez consulter dans son cabinet à Saint-Leu, si cela vous branche, évidemment. Merci Hélène. Au mois prochain, une chanson pour illustrer ta chronique. Un poème de Victor Hugo, vieille chanson du jeune temps, interprétée magnifiquement par notre ami chroniqueur lui aussi, comédien et chanteur Thierry Leclerc. Un poème de Victor Hugo qui raconte une première expérience amoureuse, inaboutie, dans ce qu'on pourrait appeler le bois des Romains.
Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distrait, je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles et Rose les rossignols. Moi 16 ans, elle est morose. Elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose, et les merles me sifflaient. Rose droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours.
Nous sommes toujours bien sûr EDFM à l'écoute de ce nouveau numéro spécial chronique de Rendez-vous Compte qui a pour thème, ce mois-ci, arbres et forêts. Alors si la forêt peut être le lieu des premiers regrets amoureux, comme dans le poème de Victor Hugo, chanté par Thierry Leclerc, la forêt peut être aussi le lieu des regrets, de la nostalgie et du cri d'un oiseau victime de la folle destruction de la nature, comme nous le raconte notre chroniqueuse Michel Paret, qui chaque mois nous propose un texte personnel en lien avec le thème de nos émissions spéciales chroniques.
Voici un texte que j'ai rédigé dans le cadre du défi « Dis-moi 10 mots » proposé par le ministère de la Culture pour la semaine de la langue française et de la francophonie. Le thème de cette année est « Pour la planète ». Les 10 mots à utiliser sont « biome »,« butiner », »,« canopée », »,« conséquent », »,« débrousser », »,« empreinte », »,« glaner », »,« palmeraie », »,« solaire », »,« vivant ». Écho conscient, écho inconscient. Je suis l'oiseau, l'oiseau. Je suis libre, je plane, je vole, je survole le vaste monde, du pôle nord au pôle sud, d'est en ouest. Du haut de la canopée, j'observe tous les biomes, les océans, les rivières, les déserts de sable ou de pierre, les vastes plaines à la faune et la flore variées, les villes et les villages. Je suis heureux. C'est beau, c'est sublime, c'est vivant. Hommes, végétaux et animaux vivent en parfaite harmonie. Je les regarde vivre. Je glane des souvenirs, des images de paix. Les fleurs s'épanouissent, embaument, attirent de leurs doux parfums insectes et abeilles qui viennent butiner leur nectar pour nous offrir leur miel, le doux miel de l'existence. De là-haut, j'admire les vastes espaces où les nomades font paître leurs troupeaux de rennes, de chèvres, de chameaux. Ils font halte dans une clairière, une palmeraie, une oasis verdoyante et s'y endorment paisiblement quand s'éteignent les derniers rayons solaires. La terre est le jardin d'Éden, celui que Dieu créa au commencement de toute chose. Et puis, brusquement, un coup de tonnerre. L'orage gronde, des moteurs vrombissent, des monstres d'acier surgissent et coupent tout devant eux. On arrache, on rase, on débrousse, on asperge la terre de pesticides. La terre meurt. On ne se soucie pas des animaux qui vivent là, pas plus que des hommes à qui on promet une belle vie, une vie meilleure. On abat tout sur son passage. Il faut produire, produire de plus en plus, toujours plus, récolter encore plus, du café, des céréales, du coton. Les arbustes sont arrachés et brûlés. Les arbres seront bientôt débités en planches uniformes qui deviendront des meubles commercialisés par la grande entreprise en jaune et bleu. On plante des espèces plus lucratives. Le profit, toujours le profit. La mort fauche tout sur son passage. C'est le désastre. L'homme est-il devenu fou? Sait-il ce qu'il fait? Est-il conséquent? Il est plutôt éco-inconscient. Il détruit tout et court à sa perte. Quelle empreinte aura-t-il laissée sur la terre? Et moi, l'oiseau, je me perche sur une branche desséchée de ce qui fut jadis un arbre. Je cache ma tête sous mon aile et je pleure des larmes amères. Qui puis-je?
Si l'oiseau de Michel Paré, perché sur une branche desséchée de ce qui fut jadis un arbre, cache sa tête sous son aile et pleure de larmes amères en contemplant la forêt en voie de destruction massive, les arbres peuvent aussi accueillir les émotions sentimentales des humains. C'est ce que nous raconte en tout cas un autre de nos chroniqueurs. Alors nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte spécial chroniqueur avec pour thématique ce mois-ci l'arbre et la forêt. Alors nous accueillons avec beaucoup de plaisir Gérard Pouêtre, notre chroniqueur. En principe, c'est son chat Maurice qui prend la parole, mais là, Gérard, tu vas nous lire des textes extraits d'un autre ouvrage que celui de tes chroniques. Alors, merci.
Donc ça s'intitule « Nous sous les arbres ». Sous ton saule pleureur, je vois que tu pleures. Sous mon platane, je te tanne. Sous ton sapin, pour te calmer, tu peins. Sous mon chêne, je me déchaîne. Sous ton peuplier, ta hargne est dépliée. Sous mon noyer, de peine, je me noie. Sous ton bouleau, de colère, tu boulottes. Sous mon tilleul, d'espoir, je te titille. Sous ton sitise, tu réponds des sottises. Sous mon acacia, une branche, tu scias. Sous ton citronnier, arrogante, tu trônes. Sous mon oranger, viens me déranger. Sous ton frêne, mes ardeurs, tu freines. Sous mon houx, je le sais, je suis à ton goût. Sous les tuyas, d'abord on s'ennuya. Sous mon amandier, ton amour, j'ai mendié. Sous ton être, c'est là que je veux être. Sous mon mimosa, enfin, tu osas. Sous ton érable, tu es désirable. Sous mon magnolia, à nouveau on se lia. Sous ton cyprès, ce soir, on est si près. Sous mon bambou, d'amour, je boue. Sous ton séquoia, de désir, on s'empoigna. Sous mon mélèze, on est sur des braises.
Voilà, on va s'arrêter là, Gérard. Ouais, très, très, très beau texte avec un crescendo, disons, érotique.
Voilà.
De belle qualité.
Sentimental.
Alors, Gérard, tu ne veux pas repartir sans nous parler des rapports qu'entretient Maurice, le chat de tes célèbres chroniques, avec les arbres.
Mon chat est amoureux des arbres. Je crois que tous les chats aiment les arbres, en fait. Hein. Et ils le montrent, ils se frottent, ils font leurs griffes, mais tout doucement, en général. Par contre, ce qu'il fallait inventer, c'était la réciprocité éventuelle. C'est-à-dire, que pensent les arbres des chats? Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était de les faire dialoguer sur des valeurs qu'ils partagent. L'empathie, pour commencer. Moritz arrive. Salut, je veux bien me mettre à ta place, mais il faudrait que tu te déracines. Et si tu veux, je te prêterai mon fauteuil. Ne fais pas dans la dérision, Moritz. Tu sais bien que c'est une attitude, un sentiment. Ah, j'avais cru qu'on devait se transporter dans un autre corps. J'aurais bien voulu savoir ce que ça faisait d'être dans la peau, si je puis dire, d'un être. Alors je vais t'expliquer pourquoi on dit que je suis un être empathique. Plus les humains et les autres espèces ont une vie agitée, tourmentée, frustrante, plus ils ont besoin d'être aidés. Mes qualités correspondent à ce qui leur manque. Donc je ne vais pas leur refuser cette aide. Dis donc, tu peux être un peu plus concret? Ok, je vais te raconter une histoire. Par exemple, un jeune nuage ne voulait pas partir vers le nord. Il ne voulait pas suivre la nuée. Il savait que dans ce cas, sa vie serait très courte. Moi, dont la vie est très longue, je devais répondre à sa frustration. Il voulait encore profiter de l'horizon et de quelques beautés de la terre avant d'apporter sa contribution, sous forme d'une averse, si modeste soit-elle. Il s'approcha de ma cime et tenta de décrocher un morceau de son duvet gris pour s'agripper. Alors je hissai ma ramure le plus haut possible. Ainsi, je pus l'envelopper dans mon feuillage sans que la nuée ne s'en rende compte et ne le contraigne à se soumettre aux ordres du vent. Il demeura suspendu, entremêlé dans mes feuilles, somnolent. Le lendemain, le vent s'inversa. Il me déversa quelques gouttes pour me remercier. Son eau me parut particulièrement douce. Puis il repartit doucement vers le sud. Et c'est presque une histoire d'amour que tu me racontes. Mais est-ce que mes qualités de chat peuvent me rendre empathique pour les humains? Qu'est-ce que je représente pour eux et qu'est-ce qu'ils représentent pour moi? Même si on a une relation forte tous les deux, je te vois comme attaché à ton indépendance, ton libre arbitre. Ça leur sera aussi sûrement utile.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs qu'on peut retrouver tes chroniques dans le journal de François, très régulièrement. Un journal en ligne qui rapporte toute l'actualité culturelle, historique, événementielle de la vallée de Montmorency.
Un jour, le roi des arbres réunit ses sujets dans son palais de marbre au cœur de la forêt. Le chêne à brosse et liane, le cèdre du Liban. Le pin des Landes consulte un vaste plan. Le vent porta l'affaire à travers les forêts. Les arbres de la terre ont déclaré la paix. Vivre était leur désir, porter chacun leurs fruits. C'était vaincre ou mûrir, leur devise et leur cri. Leurs fleurs en grand mystère, imperceptiblement, s'ouvraient vers la lumière en prenant tout leur temps. Et du cœur des charpentes, des coques des bateaux, au linteau des soupentes et aux traverses du métro. Du papier dans les lignes et du corps des crayons, le bois semblait revivre et devenait chanson. Libres de leurs amarres, les mâts qui naviguaient répondaient aux guitares et les arbres chantaient. Jamais de mémoire d'homme on entendit ce chant.
Nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce nouveau numéro spécial chronique de Rendez-vous Compte qui a pour thématique la forêt et les arbres. Eh bien, naturellement, Marine Gauvin, notre illustratrice freelance, nous donne son point de vue et son ressenti d'artiste sur ce thème avec cette quatrième chronique dont le titre est déjà un très joli jeu de mots. Quel est ce titre, Marine ?
Croquer la forêt. Alors, j'ai toujours grandi environnée de forêts. Loin d'une forêt, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est mon élément vital naturel, mon oxygène, l'espace naturel au quotidien qui me ressource le plus. Revenue à Saint-Leu-la-Forêt après mon année de volontariat en Allemagne, j'ai retrouvé les sentiers de mon enfance et me suis refamiliarisée avec cette forêt sous mon œil et ma démarche d'adulte. Je peux y accéder à pied après 25 minutes de marche à travers toute la ville et me laisser happer par les nombreux chemins qui sillonnent la forêt. Quand l'envie m'en prend, je glisse dans mon sac mon appareil photo pour sublimer des lumières, des ambiances, des macros d'insectes, des champignons et, plus occasionnellement, je troque l'objectif contre mon carnet de croquis. Je suis alors à l'affût d'un arbre à croquer, une ambiance à immortaliser sur le papier, des fleurs, des champignons à semer sur mon carnet. Je m'en vais m'oublier une vingtaine de minutes à mettre en dessin ce que je vois. J'aime ces instants où j'oublie tout et où je suis pleinement présente avec mon sujet, à sentir autour de moi l'odeur de l'humus, de la pluie fraîchement tombée, des feuilles humides sous mes fesses ou l'écorce de l'arbre sur lequel je suis assise. Passer du temps juste à regarder, contempler, dessiner l'ombre, la lumière, sentir du regard le relief de ce que je dessine me donne l'impression de ressentir plus profondément la forêt encore que si j'y allais simplement pour marcher, marcher, marcher.
Comme si le dessin t'offrait cette connexion particulière avec la nature, en particulier les arbres.
Oui, tout à fait. Et le croquis permet également d'aiguiser le regard et de vivre deux expériences en simultané. L'expérience du dessin et l'expérience physique. Le crayon qui glisse sur la feuille de papier, le pinceau plongé dans l'eau du petit récipient, frotté ensuite sur le godet d'aquarelle et imbibé à la fois d'eau et de couleur qui se pose sur le carnet. La sensation du stylo bille, si différente de celle du crayon. Le carnet en équilibre sur les genoux, la boîte d'aquarelle qui disparaît presque dans l'aine, le pinceau dans une main et le récipient d'eau dans l'autre. Priez pour ne pas que le récipient tombe sur le dessin. La main à droite qui trace les premiers traits, parfois l'hésitation, le trait maladroit, la frustration, le croquis barré. On reprend, on se calme, on se concentre, on se recentre. Les formes naissent, se chahutent, prennent forme, vie. Ne pas oublier de faire confiance à ses yeux, sa main, son cœur. Chercher le flot, la fluidité, le geste précis et rapide. Il ne faut pas laisser place à la tergiversation, au questionnement, car sinon la maladresse arrive et le croquis est bancal.
Oui, et puis il y a aussi le ressenti physique.
Ah oui, les fourmis dans les jambes, l'écorce du tronc couché de l'arbre sur lequel je suis assise qui me picote les fesses, la douce caresse des feuilles sous mes pieds quand je suis accroupie au sol, la feuille qui tombe sur mon carnet, le vent qui joue avec les feuilles de ce même carnet, le rayon de soleil qui vient réchauffer mes paupières, au contraire la pluie qui me glace et me fait trembler. Le bruit plus intense de la forêt, maintenant que je suis immobile et en voyage intérieur. Les mésanges, les merles, les rouges-gorges, le bruissement des feuilles dans les châtaigniers, d'un oiseau qui fouille la litière forestière à la recherche de vers, le plic-ploc des gouttes d'eau qui tombent sur le sol. Je suis environnée de musique, la musique de la forêt, perturbée parfois par le bruit de la circulation de la vallée, d'un avion dans le ciel, d'une tronçonneuse plus loin. Tous ces éléments recueillis dans un même espace-temps, restreint, concassé, celui du temps de mon croquis. Je suis à la fois ici, ailleurs, là-bas, dans mon corps et dans la forêt, dans la rapidité de l'exécution et l'immobilité du reste de mon corps.
Oui, mais dis-moi, Marine, tes croquis sont réalisés à l'aquarelle. Donc, s'il pleut en forêt, trop d'eau, plus d'aquarelle?
Oui, c'est vrai, parce que je vais en forêt presque par tous les temps. Et parfois, il m'arrive de dessiner sous la bruine. Dans ces moments-là, le cerveau n'a plus sa place, car il faut dessiner vite avant que le froid et l'humidité m'imprègnent totalement. C'est donc dans une sorte d'urgence que je croque ce que je vois sans réfléchir à faire joli, faire bien. Et parfois, je joue avec les éléments. C'est ainsi que les gouttes de pluie vont amener de la matière au dessin, lui donner un aspect plus organique, moins structuré. Car le croquis n'est pas là pour chercher à faire beau, mais chercher à faire vrai, pour immortaliser un moment précis de la vie en quelques coups de crayon.
Et si le vrai est aussi beau, alors qu'est-ce qu'on peut demander de plus, Marine?
Eh oui, croquer, c'est aussi décider quoi mettre en lumière, hiérarchiser ce qui nous entoure. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Qu'est-ce qui, au contraire, doit se fondre, presque s'invisibiliser? Quelle tonalité donner à mon croquis? Tant de questionnements pour si peu de temps. Le croquis, l'art de la décision en quelques traits, l'art du mouvement furtif, de la précision, du lâcher-prise, un voyage immobile au cœur de la forêt.
Merci Marine pour cette chronique si joliment croquignolesque, si je peux me permettre. Mais comment peut-on découvrir les croquis que tu as effectués dans la forêt?
Et bien sur mon site www.marinegauvin.com, donc Gauvin, G-A-U-V-A-I-N, vous allez sur mon blog et à l'article Croquer la forêt du 13 septembre 2024.
Voilà, merci Marine. On peut retrouver en podcast notre émission du 5 décembre 2024, au cours de laquelle tu nous as présenté l'origine de ta passion pour le dessin, la nature, les voyages, la photographie, les animaux libres. On peut aussi écouter tes trois précédentes chroniques dans nos émissions du 9 janvier, 6 février et 6 mars sur le site d'IDFM, naturellement, rendez-vous compte. Marine, à bientôt pour une nouvelle chronique.
Oui.
Oui. Voilà, vous êtes toujours bien sur EDFM, on écoute une chanson qui semble écrite pour illustrer ta chronique.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines, pour prison et mes racines.
Une annonce pour terminer, une invitation d'abord de nos invités de l'un de nos précédents rendez-vous compte, Patricia et Thierry du mouvement ATD Quart Monde, qui organisent du 9 au 14 avril une semaine de week-end de chantier partagé au Centre international de Méry-sur-Oise. Une bonne occasion de découvrir ce mouvement d'aide à toute détresse et à la dignité pour tous, grâce aux ateliers, repas partagés, autres moments conviviaux et même grâce à un hébergement sur place. Renseignements au Centre international à Méry-sur-Oise. Infos et inscriptions chantier.découverte@atd-carmonde.org. Autre annonce avant de nous quitter, notre ami Dan Jacobson, que nous avons reçu à deux reprises les 13 et 20 mars avec son complice de toujours le peintre animalier Bernard Vercruis. Dan Jacobson expose ses toiles hyperréalistes à la galerie de Grouchy à Audny jusqu'au 27 avril. L'affiche de l'expo est magnifique. Elle associe sur fond de ciel azur le Concorde et le paquebot France. Voilà, Dan Jacobson à la galerie de Grouchy à Audny jusqu'au 27 avril. Rendez-vous compte. Ainsi se termine notre quatrième rendez-vous compte spécial chronique, à retrouver en podcast sur le site d'IDFM, évidemment, avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Michel, Gérard, Thierry, Hélène et Marine. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de rendez-vous compte sur IDFM, évidemment.